franceinter.fr.
Et le menu des dinosaures, enfin révélé ou presque, avec des chercheurs français qui viennent de mettre au jour les habitudes alimentaires de certains grands prédateurs présents sur Terre il y a plus de 100 millions d'années, et ce grâce à l'analyse du calcium contenu dans les fossiles. C'est une découverte qui permet de mieux comprendre comment autant de carnassiers pouvaient cohabiter. Catherine de Copé.
Et pour parler de cette petite révolution, avec nous en duplex de Lyon, Auguste Asler, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes doctorant en paléobiologie et géochimie au laboratoire de géologie de Lyon et vous co-signez cette étude qui vient donc d'être publiée dans la revue Proceeding of the Royal Society of London.
Bravo.
J'espère que j'ai bien prononcé.
C'était parfait.
Avec vos collègues, donc, vous avez examiné les fossiles de plus de 70 dinosaures provenant de fouilles au Niger et au Maroc, principalement la famille des théropodes. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Et vous avez découvert que ces grands prédateurs avaient un régime plus varié qu'on ne pensait.
Oui, alors tout à fait. On s'est intéressé en fait plusieurs grands prédateurs qui peuplaient ces faunes, donc avec des dinosaures théropodes, comme vous l'avez dit. Donc les dinosaures théropodes, c'est la famille de dinosaures qu'on se représente généralement comme étant les dinosaures carnivores, avec les vélociraptors et les T-Rex pour les plus connus. Mmh. Et donc parmi les théropodes donc qui peuplaient les faunes qu'on a étudiées, donc on a distingué deux familles différentes, avec des spinosaures d'un côté qui avaient des habitudes alimentaires plus orientées vers de la piscivorie, donc de la consommation de poissons, tandis que les autres théropodes qui peuplaient ces faunes étaient beaucoup plus axés sur des proies terrestres, des dinosaures herbivores plus classiquement.
Vous avez aussi observé le Sarcosuchus imperator, je crois, qui lui mélange à la fois des proies aquatiques et des proies terrestres.
C'était quoi cet animal exactement?
Alors, pour le Sarcosuchus imperator, en fait, il s'agissait donc d'un crocodile géant qui fait environ 15 mètres de long.
Ouf.
Et un sacré crocodile. Et donc, il y avait des habitudes alimentaires visiblement assez partagées entre les proies terrestres, donc des dinosaures herbivores qui passeraient près du fleuve dans lequel ils vivaient, ou des poissons donc qui pouvaient consommer directement dans le fleuve en question.
Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on savait du régime des dinosaures en fait? On n'avait que des informations parcellaires. Comment on faisait pour savoir ce qu'ils mangeaient?
Alors, il y avait plusieurs méthodes. Une des méthodes la plus classique, c'est de regarder leur morphologie, tout simplement, et de la comparer avec ce qu'on connaît aujourd'hui de la morphologie des animaux actuels. Et sur la base de ces comparaisons, il avait été suggéré pour les animaux qu'on a étudiés dans notre cas, justement qu'il y avait ces habitudes-là avec des spinosaures qui seraient plus axés sur la piscivorie. Et en fait, grâce à notre méthode et aux résultats qu'on a là, publié donc, ça nous a permis de confirmer un peu ce qui était suggéré par ces méthodes-là. Et
on va revenir sur votre méthode, hein, puisque c'est l'apport énorme de votre recherche repose sur cette méthode, car vous êtes allé chercher des traces de calcium dans les fossiles. Expliquez-nous en quoi le calcium est un marqueur intéressant du coup de l'alimentation.
Eh bien, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le calcium qu'on a dans notre organisme, il provient essentiellement de la nourriture qu'on consomme. Et du coup, par l'intermédiaire de mesures d'analyse chimique qu'on peut faire sur ce calcium-là, en fait, on va comparer du calcium avec différents isotopes. Alors, je ne sais pas si le terme isotope parle à tout le monde. Le calcium, c'est un élément qui peut être présent sous plusieurs formes avec des masses différentes. Et ces différentes masses, c'est ce qu'on appelle les isotopes. Et suivant leur abondance relative entre ces isotopes, on a ce qu'on appelle une signature isotopique, une composition isotopique. Et chez un prédateur, la composition isotopique de son organisme, donc du calcium qu'il compose, elle dépend donc en grande partie des proies qu'il a consommées, puisque le calcium provient essentiellement des proies qu'il a consommées, mais aussi donc de la physiologie qu'il y a derrière. Et grâce à ce qu'on mesure du coup sur les proies et sur les prédateurs, en fait, on peut remonter. On peut identifier quelle proie potentielle avaient ces prédateurs-là dans les faunes qu'on a étudiées.
Et alors, Augustin Asler, ce calcium précisément, où est-ce qu'on le retrouve sur les fossiles de dinosaures alors?
Alors ici, dans notre étude, on a analysé essentiellement de l'émail dentaire et des écailles de poissons également. Le calcium, c'est quelque chose qui est très concentré dans tout ce qui est tissu minéralisé. Mmh. Et ça tombe bien puisque c'est ce qu'on retrouve le plus souvent en reste fossile. Donc ça peut être des os, des dents ou des écailles de poissons.
Alors, ce qui est très intéressant également avec votre étude, Auguste Hassler, c'est qu'on comprend que autant de carnivores pouvaient cohabiter dans un même écosystème, finalement, sans être en compétition, contrairement à ce que les films de grosses productions peuvent nous montrer parfois.
C'est ça. Ici, en fait, on est dans des écosystèmes. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces écosystèmes-là en particulier. On a une énorme abondance de prédateurs dans ces écosystèmes et c'était un peu mal compris puisque on avait très peu de dinosaures herbivores en comparaison. Donc il y avait d'autres études qui avaient déjà avancé le fait que justement il pourrait y avoir de la piscivorie parmi les prédateurs qui étaient dans ces faunes-là. Et donc c'est ce qu'on a confirmé ici. Et en fait, si on regarde les compositions isotopiques de chaque prédateur, on voit que chacun avait vraiment un régime alimentaire spécifique. Et donc ils se partageaient les ressources entre guillemets pour ce qui a permis de, on va dire, tamponner la compétition entre ces prédateurs. Et ce qui a donc permis ce qu'on observe dans ces gisements fossiles, cette surabondance de prédateurs.
Est-ce qu'ils se mangeaient entre eux ?
Alors oui, c'est possible, mais c'est pas dans tous les cas, c'est pas leur ça a pu arriver ou s'il y a une entre guillemets, si un dinosaure passe à côté d'une carcasse qui traîne, il va pas gêner. Mais c'était clairement pas leur régime alimentaire principal.
Merci beaucoup en tout cas Augustin Hassler pour les résultats de cette étude là qui vient de paraître. Vous êtes doctorant en paléobiologie et géochimie donc au laboratoire de géologie de Lyon et vous co-signez justement cette étude. Merci à vous. Et puis Catherine, on se retrouve demain.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, toujours au rayon dinosaure, le sexapile des Triceratops se trouvait probablement dans leur corne. Une équipe de paléontologues de l'université Queen Mary de Londres s'est penchée sur les raisons de la variété des ornements de tête des Triceratops, des pointes, des os saillants, des pics et des collerettes. Les chercheurs ont donc listé 350 critères morphologiques des Ceratopsiens, cette famille de dinosaures cousines des Triceratops est dotée de ses accessoires ornementaux. Et les résultats des analyses sont sans appel, la sélection sexuelle est bien à l'origine de l'exubérance des décorations de la tête de cet animal, une façon d'afficher la qualité de son pédigré et de se rendre plus attrayant pour l'autre sexe. Connaissez-vous les canicules marines dans nos océans ? Des scientifiques de l'université Dalhousie au Canada ont observé depuis 1982 des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. Des relevés maritimes, terrestres et satellites montrent une augmentation de 54% de ces épisodes de canicules marines. Plus étalés dans le temps, ce réchauffement marin a des conséquences directes sur la biodiversité et l'industrie de la pêche. En 2016, l'intense vague de chaleur qui a touché la Tasmanie a provoqué ainsi des épidémies et perturbé les industries aquacoles. Et puis la mélatonine à consommer avec parcimonie, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, la mélatonine sous forme de complément alimentaire serait déconseillée chez certaines populations en raison de ses effets secondaires avec des céphalées, des vertiges, de l'irritabilité, des tremblements. Les experts recommandent de ne pas dépasser une dose de 2 mg par jour et de se limiter à un usage ponctuel avec avis médical en vente libre en France, utilisé pour lutter entre autres contre l'insomnie. Ce complément alimentaire est tout de même consommé à hauteur d'1,4 million de boîtes par an.